Quelle joie d'être avec vous ce matin, encore une fois. On avait essayé ces cultes en commun l'année dernière. On avait fait deux fois pour voir si ça marchait. C'est pas celui-là, hein, si jamais. Et puis ça a marché. Du coup, cette fois, on fait quatre fois aller-retour. Et le culte atteint mieux son but quand c'est participatif, quand les gens peuvent participer dans la prière, peuvent participer dans la louange, peuvent participer dans les témoignages. Et ça avait été déjà ce qu'on avait vécu la dernière fois, et c'est aussi ce qu'on a vécu ce matin avec vos participations. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez participé. C'est toujours pas celui-là. Et une chose que j'ai trouvé super chouette l'année dernière, quand on est venu ici, c'est qu'il faisait très très chaud, super chaud, et ça avait marqué que vous avez servi de l'eau pendant le culte. Dans les rangées, j'ai trouvé ça super. Ça, c'est, on se sent accueilli. Au milieu du culte, quand il fait super chaud, on nous sert à boire. C'était totalement inattendu et ça m'a beaucoup touché. C'est Tape-toi un bon mur. Ça doit être celui-là. Voilà, merci. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de foncer à toute allure droit dans une porte vitrée? Soit une porte automatique ou juste une porte en verre, il y en a tout plein ici pour avoir ce problème. C'est drôle quand on est au cirque et puis les clowns, ils simulent des accidents comme celui-là. Mais dans la vraie vie, c'est pas du tout drôle. Ça m'est déjà arrivé. On était aux États-Unis devant un magasin chrétien. Mes parents étaient dedans. Moi, j'avais plus rien regardé. Je suis sorti et quand je voulais rentrer de nouveau, bam! Droit dans une porte vitrée, je suis tombé par terre, je me suis senti perdu pendant plusieurs secondes, sans savoir ce qui m'était arrivé, comment j'étais là par terre. Je ne m'étais pas rendu compte que j'avais foncé droit dans une porte vitrée. Les larmes coulent directement, sans que tu aies le temps de les retenir, parce que tu es tellement étonné et tellement surpris de t'être chopé un truc comme ça. C'est très violent de se cogner face à une porte vitrée. Et Dieu permet des fois qu'on se cogne à des portes ou à des murs pour nous faire grandir. Et aujourd'hui, le prochain dimanche, on sera là avec vous. J'aimerais partager quelques phases de la vie de Paul où il s'est cogné fort contre des obstacles que Dieu a permis dans son chemin. Et on va voir comment Dieu a utilisé ces moments d'étourdissement dans sa vie pour le faire grandir. Dans l'histoire de Paul ou de Saul, sa première phase a été la phase zélée pour Dieu. Le zèle, c'est une passion, une détermination pour tout faire pour plaire à Dieu, peu importe les sacrifices à faire. Et l'amour de Saul pour Dieu était sincère dès le début. Il avait été formé avec un grand rabbin de l'époque, il connaissait très bien les textes de l'Ancien Testament. Et en étudiant l'Ancien Testament, on voit que la désobéissance entraînait des malédictions pour tout le peuple. Tout le peuple souffrait à cause du péché, quand il y avait du péché qui était là. Et pour comprendre le zèle que Saul avait pour Dieu, il y a un passage clé en Nombre 25. On lit l'histoire du peuple qui est sous les tentes dans le désert. Et le peuple commença alors à se livrer à la débauche avec les femmes Moabites. Elles invitèrent le peuple au sacrifice en l'honneur de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha au Dieu Baal Péor et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Donc ils se sont dit, on n'a rien à faire dans ce désert, pourquoi pas inviter plein de femmes Moabites, faire des fêtes? Se coucher avec une un jour, avec l'autre l'autre jour, il n'y a rien de mal. On va juste s'amuser. Et ces femmes ont dit en retour, écoutez, venez, on va aussi s'agenouiller devant nos dieux, manger des repas consacrés à ces dieux. Vous allez voir, ce sera vraiment cool. On pourra même pratiquer la sexualité sacrée devant ces dieux-là. Et tout plein d'hommes de la communauté se sont dit, yes, alors c'est ça la vraie vie. C'est ça la liberté, on y va. Moïse appelle les leaders du peuple et ordonne de pendre ceux qui étaient coupables de ce péché. Et ça se fait. Et une fois que c'est fait, Les leaders sont en train de pleurer les morts devant l'attente de la rencontre, d'être tristes pour le péché et les conséquences. Et à ce moment précis, il y a un Israélite qui arrive tout content dans le camp en amenant avec lui une femme moabite, madianite, pour que lui et ses frères puissent coucher avec elle. Visiblement, il n'était pas au courant que tout plein de monde était mort à cause de ça. Et c'est là où Finé se lève, il prend sa lance, les suit jusqu'à leur tente et les transperce, la femme et l'homme d'un seul coup, dans le bas-ventre. Oui, la Bible ne cherche pas des détours pour dire ce qui s'est passé. C'est vraiment passé comme ça. Et regardez le commentaire de la Bible par rapport à cette attitude de Finé. L'Éternel dit à Moïse, « Finé, fils d'Éléazar et petit-fils du prêtre Aaron, a détourné ma fureur des Israélites parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. » Donc le zèle décrit par la Bible dans ce passage, c'est quand une personne a une détermination tellement forte pour établir la volonté de Dieu qu'elle est capable de tout pour le faire. Elle est capable de tout. Et Saul veut vivre le même zèle pour Dieu que Finé. Saul voit la lapidation d'Étienne et puis il se dit, ben, c'est ça le chemin. Pour plaire à Dieu, il faut être zélé à ce point-là, ne pas avoir peur de tuer nos propres amis, ceux qui ont grandi avec nous. Il faut être comme eux, comme Finé et comme ceux qui ont lapidé Étienne. Ces chrétiens sont des purs hérétiques avec leurs croyances. Ils sont en train d'adorer un autre Dieu, pas le Dieu de la Bible. C'est pour ça que notre pays souffre et qu'on n'a pas la bénédiction de Dieu. Puis alors le texte dit, quant à Saul, il cherchait à détruire l'Église. Il pénétrait dans les maisons, en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Zélé pour Dieu. Et profondément sincère dans sa démarche. Profondément sincère il était dans ce qu'il faisait. On est dans la phase zélée quand on recherche Dieu avec sincérité, mais qu'on devient carré dans nos convictions. On s'identifie avec une idée ou un groupe de chrétiens et on devient strict, radical dans nos positions. Ça peut être des convictions par rapport à comment il faut adorer, comment le culte doit être vécu, ou comment il faut témoigner, ou comment il faut servir. Et on devient, c'est juste comme ça. Ça peut être aussi des opinions tranchées sur le Saint-Esprit, sur qui il est ou comment il doit agir. Ça peut aussi être n'avoir aucune grâce pour les personnes qui vivent un style de vie de famille ou de sexualité qui n'est pas en accord avec nos convictions. Pour les élèves, c'est que noir ou blanc. C'est soit quelqu'un pense comme moi et fait comme ça, soit il a tort. Et on devient jugeant envers les autres. Cette semaine, Clarissa m'a demandé quel a été le moment le plus sombre de mon histoire jusqu'à présent. Ce que j'aurais voulu rayer de mon parcours de vie. Et beaucoup de choses sont venues dans ma tête. Je me suis rappelé de plusieurs périodes où j'ai fait beaucoup de bêtises, où j'ai choisi consciemment le péché, m'éloigner de Dieu. Mais étonnamment, ce n'était pas le moment le plus sombre de mon histoire de vie. Je considère que le moment le plus sombre de mon histoire de vie s'est passé entre 2012 et 2013. J'ai décidé de lire le Nouveau Testament et de suivre à la lettre tout ce qui était écrit. Je n'allais rien partager à personne sur mes besoins, juste au Seigneur. Et au fur et à mesure, j'allais expérimenter ses réponses et j'allais publier sur un blog. Et cela peut sembler très beau et noble, mais ce qui s'est passé, c'est que je suis devenu un pharisien complètement insensible. J'étais complètement aveugle dans ma folie, j'écoutais plus Clarissa qui m'avertissait sur où cette voie allait m'amener. Je n'écoutais plus mes amis qui ont pris le temps de me dire que c'était pas très juste comme j'étais en train de vivre. C'était la période la plus sombre de ma vie. J'ai donné plus d'argent que je pouvais. J'ai presque vendu mon piano qui avait été acheté avec tant d'amour par mes parents. Je faisais des sacrifices pour les autres sans aucun amour, juste par obligation. Un événement qui aurait pu être très positif, mon baptême a été fait juste pour accomplir un rite, sans conviction sincère. Ce n'était pas pour remarquer un renouveau avec Jésus, par exemple, C'était juste, ben, c'est marqué, on y va. Et j'ai presque fini ma relation avec Clarissa, on en fréquentait à l'époque. C'était vraiment une période très, très sombre. Et dans son zèle aveugle, Saul respirait toujours la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin de pouvoir arrêter et amener à Jérusalem les partisans de cet enseignement, qu'il trouverait homme ou femme. Et le problème avec les portes vitrées, c'est qu'on ne les voit pas venir. On pense que tout va bien, on avance déterminé, et quand tout d'un coup, paf. Et pour Saul, c'était même pas une porte vitrée, c'était carrément un mur. En chemin pour Damas, il se casse la figure, il tombe par terre, il est tout étourdi. Son corps est touché pour l'empêcher de poursuivre ce chemin. Et il écoute cette voix qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Dieu met un mur dans son chemin parce qu'il veut changer quelque chose dans le cœur de Saul. Il voit que Saul est sincère dans sa démarche, mais il y a quelque chose qui cloche, même dans sa sincérité. Qu'est-ce que Dieu voulait changer ? Ben, il y a plusieurs dangers quand on est dans la phase « zélé pour Dieu ». Le premier problème, c'est lire la Bible comme un livre de règles et pas dans le but de connaître le cœur de Dieu. Ça, c'est un des dangers. D'ailleurs, quand Saul est par terre tout étourdi et qu'il entend la voix, il demande « Qui es-tu, Seigneur ?» Qui es-tu, Seigneur ? Tellement dévoué aux Écritures, tellement déterminé à faire sa volonté, et il ne connaissait même pas son Dieu. Qui es-tu, Seigneur ? C'est ce que Jésus a le plus critiqué chez les pharisiens. Il leur a dit, vous étudiez avec soin les Écritures parce que vous pensez trouver en elles la vie éternelle. Oui, Saul aussi, il étudiait la Bible parce qu'il voulait avoir la vraie vie. Et Jésus continue, ce sont justement elles qui témoignent de moi. Pourtant, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vraie vie. Pour Jésus, on lit la Bible pour découvrir le caractère de Dieu. Pas pour suivre à la lettre tout ce qui est décrit. C'est pour découvrir qui il est. Et par la suite, on va pouvoir agir en conséquence. Mais premier, c'est pour connaître ce Dieu. Savoir qui il est réellement. Pas pour suivre la lettre comme un livre de règles. Jésus était en train de dire aux pharisiens, « L'Ancien Testament que tu connais bien, en fait, il témoigne sur moi. » Et c'est ça le plus important. Au lieu de s'efforcer d'accomplir ses commandements, viens à moi et viens apprendre de moi, premièrement. Ça va changer par la suite tes actions aussi. Mais d'abord, viens à moi pour me connaître. Donc, dans le passage de Nombre 25, ce qui doit nous marquer, c'est l'horreur de Dieu quand son peuple se détourne de lui si facilement. Il les avait bénis. Il les avait guidés dans le désert, il les avait nourris, leur avait donné la victoire contre les ennemis. Et là, juste quelques femmes moabites et ils balancent tout. Et c'est intéressant parce que c'était une ruse du roi des Moabites. Le passage avant, c'est Balaam. Du coup, le roi de Moab, il avait engagé Balaam pour maudire ce peuple pour qu'il puisse avoir la victoire. Dieu, il intervient, il ne permet pas que le peuple soit maudit. Et du coup, le roi, il dit, ben alors on envoie des femmes. Et puis, ils seront maudits par Dieu lui-même parce qu'ils vont pécher contre Dieu. Du coup, c'était une ruse du roi de Moab. Donc, en voyant la colère de Dieu, on peut se dire, dans ce passage de Nombre 25, on peut se dire peut-être que pour Dieu, le pire péché, c'est de, en ayant goûté ses bénédictions, vivre comme si son amour n'existait pas. Je m'en fiche, je fais ce que je veux et j'adore le Dieu que je veux. Ça, Saul aurait pu garder de ce passage. Ça, il aurait pu garder. Le deuxième danger, lorsqu'on est dans la phase zélée, c'est de... Alors là, lire la Bible pour découvrir Dieu, ça serait mieux. Le deuxième danger, c'est transporter les textes directement pour le présent. Phiné, en Nombre 25, a reçu l'approbation de Dieu pour sa colère contre le péché. C'était une colère que Dieu lui-même avait contre le péché. Et Saul regarde juste l'événement, Phiné, zélé pour Dieu, a tué quelqu'un pour Dieu. Il faut faire la même chose. Et puis il recopie exactement la même chose dans un contexte totalement différent. Dans l'épisode de Nombre, ils avaient vraiment sacrifié à d'autres dieux. Dans les contextes de Saul, les chrétiens avaient sacrifié à qui ? Ou ils se sont livrés à la prostitution avec quelle femme ? Saul ne prend pas en compte le contexte actuel qu'il vivait. Il se dit simplement, ben c'était comme ça à l'époque, on fait la même chose aujourd'hui, tac. Et ça, c'est très dangereux. C'est en faisant ce saut historique que l'Église a déjà commis de grandes atrocités dans l'histoire, au nom de Dieu. Du coup, au lieu de transporter le texte directement pour le présent, ça serait comparer le contexte de l'époque et le contexte d'aujourd'hui, pour voir qu'est-ce qui est applicable. Et le troisième danger, lorsqu'on est zélé, c'est oublier que la révélation de Dieu est progressive dans la Bible. Pour un peuple désorganisé et nomade dans le désert, Dieu devait montrer certains traits de son caractère pour enseigner quelque chose. Après, quand ils étaient établis dans le pays, il a montré d'autres aspects de qui il était avec les prophètes et les rois. Et finalement, avec Jésus, il montre parfaitement qui il est, ce mélange parfait de justice et de grâce, de colère contre le péché et de compassion avec le pécheur, de force et toute puissance pour faire des miracles et la fragilité de se laisser faire par les autres. Jésus était ce mélange parfait de toutes ces choses. Et donc se rappeler que la révélation parfaite de qui est Dieu, on trouve en Jésus. Et avant, elle est progressive. Et Dieu met ce mur dans le chemin de Saul pour lapider ce zèle. Il allait transformer le zèle de Saul. Avant qu'il ait tombé sur la route pour Damas, son motto était « Les autres vont souffrir pour qu'ils reviennent à Dieu ». Et après la rencontre avec Jésus, c'était « Je vais souffrir pour qu'ils rencontrent Dieu » ou pour qu'ils reviennent à Dieu. Et le mur dans mon parcours de zélé de cette époque-là a été quand tellement de personnes ont été blessées avec mes attitudes et qu'avec Clarissa, on a presque fini définitivement notre relation. D'ailleurs, je n'avais même pas fini de lire le Nouveau Testament pour avoir la vision globale de la volonté de Dieu. Par exemple, le Nouveau Testament enseigne aussi de vivre en plein accord les uns avec les autres, où il enseigne que la compassion vaut mieux que les sacrifices. Et ces commandements-là, j'avais complètement laissé de côté. Pourtant, je dois reconnaître que j'ai appris sur comment ne pas suivre Jésus. Là, oui. Dans deux semaines, j'aimerais voir une autre phase de la vie de Paul et comment Dieu a utilisé un autre mur pour travailler dans son cœur. Et si vous vivez un mur en ce moment, ça peut être tellement de choses un mur. Vous savez vous-même si vous avez vécu un mur dernièrement, quelque chose qui nous empêche d'avancer. Peut-être qu'il veut utiliser ça pour travailler dans votre cœur. On peut l'accepter, les murs que Dieu impose, dans le physique, dans les émotions, dans la manière de travailler. On peut l'accepter. Peut-être Dieu veut changer quelque chose dans notre cœur. Du coup, n'essayez pas de passer trop vite à autre chose. Sinon, Dieu va devoir mettre un autre mur pour nous corriger, pour qu'on s'arrête pour l'écouter. Si on ne s'arrête pas maintenant quand il y a un mur, c'est mieux de s'arrêter pour aller vers lui et apprendre tout de suite. Qu'est-ce que tu veux enseigner par cet obstacle que tu mets dans mon chemin? Il veut continuer à nous enseigner à avoir la vraie vie, même si on est déjà en chemin depuis plusieurs années. Et il va utiliser des murs pour cela. On va prier. Seigneur Jésus, merci de nous aimer à ce point, de ne nous laisser pas être trop longtemps obstinés dans notre propre chemin, mais de mettre des murs pour nous empêcher d'avancer et pour nous enseigner. Et c'est vrai que ça peut faire mal, ça peut faire vraiment mal. On peut se sentir perdu, sans repère. On peut se demander aussi pourquoi avec moi, qu'est-ce qui se passe, sentir même loin de ta présence. Mais on peut faire confiance que tu vas utiliser ces périodes de désert pour nous rapprocher de toi et pour nous enseigner quelque chose de précieux pour qu'on devienne plus semblable à Jésus dans notre manière d'être, dans notre manière d'être en relation avec nos frères et sœurs, dans nos pensées, dans nos paroles. Et Seigneur, on veut s'approcher de toi pendant ces périodes et découvrir un peu plus la vraie vie que tu veux nous donner. Merci pour cette compassion qui est là même pour nous corriger. Amen.